Merci à tous ceux qui se joignent à nous. Des victimes abusées par des prêtres, il y en a partout à travers la planète, on le sait. 14 000 victimes en Irlande, vous avez vu ça. Il y a plus de 10 000 enfants qui auraient été abusés par des membres de l'Église catholique dans au moins une douzaine de pays. C'est ce que prétend l'organisme international Ending Clergy Abuse. Des histoires, il en sort régulièrement. Et heureusement, il semble que de plus en plus de victimes décident de sortir de l'ombre, de dénoncer leurs agresseurs. On l'a vu au Québec avec le recours collectif contre les frères de Sainte-Croix. Là, il y a un nouveau recours collectif qui cherche à joindre toutes les victimes des pères de la congrégation Oblat. Ça a été à travers le Québec que cette communauté a été installée, s'est occupée d'enfants. Des années 1950 à aujourd'hui, on cherche des gens qui auraient été agressés par les pères Oblat. Est-ce que vous vous reconnaissez? C'est un peu le but de notre entrevue d'aujourd'hui avec Sébastien Richard, entre autres, qui est porte-parole des victimes des religieux de Sainte-Croix, qui est porte-parole du regroupement des organismes et personnalités en faveur de l'abolition du délai de prescription. Ça aussi, c'est un problème. Merci beaucoup d'être là, Sébastien.
Avec plaisir.
Évidemment, là, il y a un avocat des victimes de Sainte-Croix, Alain Arsenault, qui a aussi le mandat d'entreprendre ce recours collectif contre les Oblats de Marie Immaculée.
Exact.
Rappelez-nous un petit peu les faits dans cette histoire-là.
Alors, ben, c'est le même pattern que dans toutes les communautés religieuses, c'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont été agressés sexuellement lorsqu'ils étaient confiés à cette communauté-là. Alors, l'originalité de ce recours-là, c'est qu'on réalise que les Oblats ont été très, très présents, mais dans toutes les régions du Québec, sauf la grande région métropolitaine. À part ça, ils ont été vraiment partout. Donc, retracer toutes ces victimes-là constitue un défi, première des choses. Et l'autre élément qui est important, c'est qu'on sait que les Oblats ont été très présents auprès des nations autochtones. Et il y a beaucoup de victimes qui sont issues des nations autochtones. Et ce qui est ressorti dans les médias jusqu'à maintenant donnait l'impression à certains que ce recours-là ne visait que les victimes autochtones, alors qu'elle vise toutes les victimes. Donc, les personnes qui nous écoutent, s'il y a certains d'entre eux qui ont malheureusement vécu cette tragédie, ils doivent savoir que le recours collectif s'adresse à toute personne qui aurait été agressée sexuellement par un membre de la communauté des Oblats de Marie Immaculée.
Ce que je comprends, c'est que la communauté religieuse veut un règlement hors cours rapide.
Bien, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que contrairement à d'autres recours comme celui contre les Sainte-Croix où on attend une décision de la Cour suprême, ici, on est face à un ordre religieux qui a décidé de régler. Alors, ça veut dire qu'il faut s'en réjouir, objectivement. Mais là où le bas blesse, c'est que c'est très bien de faire une négociation pour établir un montant qui sera réparti parmi les victimes. Mais combien sont-elles, ces victimes?
Jusqu'à maintenant, il y a combien de personnes?
Bien là, pour l'instant, on est à peu près une cinquantaine de personnes. Donc, c'est clair qu'il y en a.
Alors que vous pensez qu'il y en a combien, là, potentiellement?
Regardez, si je fais une petite analogie, là, dans le premier recours contre les Sainte-Croix, c'était trois institutions qui étaient visées, puis on était 206 victimes à être indemnisées. Donc là, on parle d'une communauté qui a été présente partout au Québec, dans des écoles, dans des orphelinats, dans toutes sortes de choses, et ça s'est répandu partout. Donc, moi, si vous me demandez une opinion qui est tout à fait personnelle, je pense qu'on est dans les milliers, là.
Donc,
j'en suis convaincu. Je vous listerai pas toute la liste des localités où ils ont été présents parce qu'on n'en finirait plus. Alors, ils ont été vraiment partout, là. Abitibi, Gaspésie, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mauricie, région de Québec, et je les nomme même pas tous. Alors, donc, c'est clair qu'il y a un potentiel de victimes extrêmement important, mais ce sont des gens qui gardent le silence depuis longtemps. Et là, ce qu'on constate, c'est que si on veut vraiment faire une entente qui est à l'image de ce que les victimes ont le mérite ont le droit de recevoir, mais il faut que ces gens-là s'inscrivent au recours collectif. Et c'est ça le défi, c'est de briser le silence et de briser la honte que beaucoup de ces gens-là ressentent et malheureusement que certains renoncent à s'inscrire.
Et c'est pour ça que la communauté veut un règlement rapide parce que plus ça va être vite et moins il y aura de monde sur la liste aussi. Là.
Je pense que ça fait partie de l'équation, je pense qu'il faut bien le dire, mais en même temps, je veux aussi être objectif et beau joueur là-dedans. Manifestement, depuis un certain temps, on constate, et là malheureusement les Sainte-Croix se distinguent négativement là-dedans, mais on constate que les communautés religieuses ont eu vraiment des directives qui viennent de Rome qui disent « on règle ». Ils sont tannés de faire les manchettes avec ça. Donc, je veux quand même me réjouir de ça objectivement,
ouais.
Mais effectivement, il y a un danger qu'il y en a plusieurs qui passent à côté.
Oui, c'est une stratégie, c'est sûr. Les victimes, évidemment, sont âgées. On parle de cas là, qui peuvent monter jusqu'à 1950. On est en 2019, considérant que les enfants pouvaient avoir 7, 8, 9 ans. Ça fait des gens gens qui aujourd'hui ont un certain âge. Évidemment, c'est un silence aussi qui dure depuis longtemps. C'est pour ça qu'on voulait parler à Michel Doré, qui est sociologue de la sexualité, qui a écrit entre autres le livre « Ça arrive aussi aux garçons », qui a été un grand succès de librairie. C'est un livre qui traite, Michel, merci d'être avec nous.
Oui, merci.
De l'abus sexuel sur les garçons durant leur enfance et l'adolescence. Là, il y a un nouveau recours collectif qui touche la communauté des pères oblats, mais on cherche les victimes. Pourquoi c'est si difficile pour une victime? Évidemment, c'est toujours la fameuse question que les gens se posent. Comment ça se fait qu'on garde le silence aussi longtemps? Et quand on sait qu'il y a un recours collectif, pourquoi les gens ne se sentent pas plus en confiance pour se faire connaître?
Ben, il y a plusieurs motifs, hein. Vous le disiez en tout début d'entrevue, la honte a longtemps été le lot des victimes. Avec le mouvement MeToo, hein, depuis un an ou deux, on se dit qu'il faut que la honte passe du bon côté, c'est-à-dire du côté des agresseurs. Les victimes, en fait, c'est un accident que les gens ont eu, là. C'est de trouver à cet endroit, mauvais moment, au mauvais endroit, comme on dit toujours. Les victimes n'ont pas à se sentir coupables. Mais pendant très longtemps, vous savez, quand les gens dénonçaient des personnes en haut lieu, comme on disait, donc des gens d'église, des notables, etc., ben les petits gars ou les petites filles aussi se faisaient rabrouer, se faisaient chicaner, se faisaient battre. Même moi, j'ai eu des témoignages terribles en ce sens-là. Alors, donc, les gens ont perdu confiance, pensent qu'ils ne seront jamais écoutés, qu'il n'y aura jamais de justice et tout ça. Et puis, vous savez, un silence que vous avez gardé pendant des années et souvent même des décennies. Moi, j'ai interviewé des gens là qui s'étaient tués pendant plus de 50 ans. Ouais. Alors, c'est comme si le petit enfant en eux, là, il est encore là. Puis moi, je dis souvent aux adultes, là, ben maintenant, là, parlez-y à ce petit garçon-là qui a encore peur, là, prenez-le par la main, et votre petit enfant intérieur, puis dites-y qu'il a pu avoir peur, là, qu'il va être écouté. Puis moi, je connais bien Sébastien, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Je sais que c'est quelqu'un qui est très à coucoute, très respectueux des gens. Personne ne sera forcé de témoigner en public ou de faire quoi que ce soit. Chaque personne va être traitée avec tous les respects et les limites qu'elle a. Alors, c'est important parce que c'est important aussi que les victimes sentent qu'elles ne sont pas tout seules. Et il y a un effet positif là-dedans. Le fait, oui, de briser le silence, de sentir qu'elles sont enfin crues. Le fait aussi de sentir une solidarité. C'est arrivé à des centaines, probablement au Québec, oui, des milliers de garçons. Alors, de voir qu'il y en a d'autres et que c'est des gens comme n'importe qui, là. C'est, je veux dire, ils n'ont rien de spécial. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de culpabilité à y avoir. Alors, ça aussi, ça démystifie beaucoup quand des victimes en rencontrent d'autres. Et ça, c'est un bon côté. Évidemment, on va dire, l'argent ne règle pas tout. Non, ça ne soulage pas des traumatismes. C'est une réparation symbolique, mais qui est importante pour dire aux victimes, enfin, on vous croit, vous êtes des gens corrects. On essaie maladroitement, mais avec le peu de moyens qu'on a, on essaie de réparer. Vous payerez du bonheur, vous payerez des belles choses avec ça. On doit essayer de réparer le passé en autant que faire ça.
Mais justement, Michel Doré, il y a des gens qui se disent aussi, à quoi bon, après 30, 40 ans, des fois 50 ans, à quoi bon ressasser tout ça, ces souffrances? Ça ramène, justement, vous parliez de le petit garçon, oui, en ces victimes-là. Ben, rebrasser ça, il y a des gens qui ont de la misère à le faire. C'est pas,
oui,
facile à faire.
Oui, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il ne faut pas forcer les confidences non plus. C'est un appel que lance Sébastien Richard en disant aux gens, si vous pensez que ça peut être utile pour vous, allez-y. Moi, je pense que souvent, les gens réalisent en le faisant qu'il y a plus de bienfaits qu'attendu, parce que sortir de la solitude, sortir du silence, se sentir faire partie enfin d'une collectivité, là, ça peut être résilient, comme on dit, dans le domaine de la relation d'aide. Ça peut être aidant. Mais encore là, évidemment, personne n'est forcé, personne ne sera forcé d'aller par-delà ses forces.
Mais là, il y a un gros groupe, là. Sébastien Richard vient de nous dire qu'il estime qu'il y en aurait des milliers de jeunes qui auraient été agressés par les Oblats. Donc, vous dites, Michel, il n'est jamais trop tard pour dénoncer, non, même si ça fait très longtemps, là.
Ah oui, moi j'ai des confidences. Écoutez, j'ai un monsieur sur son lit de mort qui avait demandé à me voir, et puis il avait 75 ans, il avait été agressé de 5 à 10 ans. Donc, ça faisait, vous voyez, plus de 60 ans. Alors, mais il disait, ben, je vais partir plus léger, quelqu'un m'a écouté, quelqu'un m'a cru. Ça peut être très, très important pour certaines victimes. Et c'est pour ça que il faut pas hésiter si on pense que on peut en tirer profit. Et je pense que les gens vont en tirer profit, pas seulement sur le plan monétaire, je le répète, mais aussi sur le plan du bien-être intérieur.
Mmh. Sur le plan monétaire, Sébastien Richard, on parle de combien de dédommagements dans ce genre de recours pour les Frères de Sainte-Croix? Les 206 victimes avaient reçu?
Un montant total de 18 millions. Mm-hmm. Et selon les victimes, ça allait, selon la gravité des dommages, entre 10 000 et 250 000 $. Donc, il y a des critères là, pour être capable de faire ça de façon le plus juste possible, si on peut employer un terme pareil.
Ouais.
Mais je pense que ce qui est très important dans ce que Michel a dit, que je salue d'ailleurs, c'est que la notion de dire pourquoi est-ce que j'en parlerais. Je vais vous raconter quelque chose d'extrêmement concret. Je suis à l'église il y a quelques années, au moment où l'entente hors cours contre les Sainte-Croix était devenue publique. Il y a quelqu'un qui vient me voir puis il me dit « Monsieur Richard, vous êtes la première personne à qui j'en parle. » Cet homme-là avait au-delà de 70 ans. Il n'en avait jamais parlé ni à sa femme ni à ses enfants.
Wow.
Donc, la raison pour laquelle je dis ça, et je rejoins tout à fait ce que Michel disait, c'est que le fait de ne pas en parler, il y a un prix à payer dans ses rapports avec les gens qui nous sont les plus chers. Il y a des choses qu'on leur cache et qu'on le fait par défense, par système, en voulant les protéger, mais en fait, on se fait mal à soi. Et ça fait en sorte que toute cette quiétude du foyer, ces relations intimes qu'on a avec nos gens les plus proches sont compromis un peu à cause de ça. Donc, le fait d'en parler, le fait d'avancer là-dedans et d'aller chercher de l'aide et d'aller chercher cette résilience dont on a tant besoin, ça fait en sorte que oui, même quand on est à la fin de sa vie, non seulement est-ce qu'on peut quitter plus léger, mais on peut ensuite expliquer à notre environnement pourquoi ces choses-là sont arrivées et à leur tour leur permettre de comprendre ça et eux aussi d'aller chercher cette résilience par rapport à ce qu'ils ont vécu sans même le savoir pourtant.
On va s'arrêter ici si vous voulez bien, messieurs. On va aller à la pause et au retour, on va donner la parole à tous ceux qui peut-être se reconnaissent dans la description que viennent en faire mes invités de ces agressions sexuelles dont auraient été victimes probablement des milliers de jeunes Québécois par les frères de la communauté Oblat. À partir de 1950, les Oblats de Marie Immaculée auraient commis des gestes assez dramatiques. Si vous êtes une de ces victimes, si vous savez que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui est touché par ce recours collectif. C'est sûr qu'il faut s'encourager à dénoncer. Comme dit Michel Doré, on force personne. Mais si vous avez envie de témoigner de ça tout de suite après la pause, on va vous écouter, on va vous donner la parole. Bien sûr, si vous avez été victime d'une agression quelconque, une agression sexuelle, pas seulement des Oblats, mais plus largement, c'est sûr que votre témoignage aussi est tout à fait cohérent et intéressant à entendre ce matin. Il peut peut-être encourager des victimes à se faire connaître. Nos numéros, 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais partout au Québec, 1-866-790-9850. À tout de suite. On parle du recours collectif contre les pères Oblats, une communauté qui a sévi un peu partout au Québec et qui aurait agressé des milliers d'enfants au cours des années 1950 jusque dans les dernières années. En tout cas, le recours collectif touche toute cette période. Si vous voulez vous inscrire au recours, je vais vous donner tout à l'heure le numéro de téléphone du cabinet de Maître Arsenault qui s'occupe de ce recours collectif. En attendant, on va donner la parole aux gens qui se reconnaissent peut-être ou qui connaissent des gens. Vous pouvez nous joindre en faisant le 514-790-9850 et partout au Québec, puisque c'est vraiment tout le Québec que ça concerne. Vous faites le 1-866-790-9850. Bonjour Gaëtan.
Bonjour, Mademoiselle Isabelle.
Est-ce que vous vous êtes reconnue dans la description qu'ont fait mes invités de ces enfants, de ces petits Québécois qui auraient été agressés par les pères Oblats?
Bien, je ne sais pas si c'était les pères Oblats, mais je sais que nous autres, moi, c'était un orphelin de l'orphelinat de Chicoutimi.
Oui.
Bien, il y a eu des victimes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, je peux vous le dire. Mais si vous avez le nom en tant que tel de l'orphelinat, là, ça, c'est certain que Maître Arsenault...
Non, en dernier, il appelait ça l'orphelinat de l'enfer.
Je m'excuse, j'ai pas compris ce que vous avez dit, monsieur.
J'ai dit, en dernier, il appelait ça l'orphelinat de l'enfer.
Ah, oui, d'accord. Ouais. et vous-même, vous avez été agressé, Gaëtan?
On va dire que oui. Moi, j'ai rentré à l'orphelinat en 1955, puis j'ai sorti de là en 1962.
Ouf.
Parce que nous autres, rendus à 12 ans, là, et les sœurs ne nous gardaient plus.
Mm-hmm.
Mais nous autres, on était traités à coups d'asphérape, puis à coups de bâton, puis mettez-en, puis ils faisaient travailler, puis en tout cas, il fallait faire le ménage, puis faire les lits, puis...
Ça a été une enfance difficile pour vous, Gaétan.
C'est que ça... une enfance, je sais que moi, les enfants, on va dire, de 5 ans à 12 ans, j'ai pas eu grand bonheur là.
Ouais. Merci. Donc, merci de votre témoignage. On a Charles avec nous. Sharon, pardon. Bonjour, Sharon.
Bonjour.
On vous écoute.
Moi, c'est mon frère qui s'est fait abuser quand il avait 13 ans à un prof dans son école dans notre pays.
Où ça?
Aux Seychelles.
Aux Seychelles, ah, d'accord.
Oui. Il ne s'est jamais parlé, mais je sais que le prof l'avait abusé parce que moi, je l'attendais après l'école qu'on retourne à la maison ensemble. Il sort de la classe qui était toute fermée, toutes les fenêtres, puis son chandail, il se met dans le pantalon. Quand il sortait, il était rouge, 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 puis il pleurait. Et je lui demandais qu'est-ce qui est arrivé. Il me dit, je ne veux pas parler, ça ne te concerne pas. Ouais. Mais je vois qu'il était mal.
Et vous témoignez en fait du fait que c'est difficile pour un jeune d'en parler, évidemment, quand ça lui arrive. Et au fil des ans, plus ça va et plus la difficulté d'en parler s'installe finalement.
Oui, et même jusqu'à aujourd'hui, je l'ai déjà demandé une fois. J'ai dit, là c'est vieux, j'ai dit, peux-tu juste m'avouer qu'est-ce que Chanel, le prof, t'a fait? Il dit... C'est plus important.
C'est plus important,
oui. Et pourtant,
merci,
ça l'est.
Merci, Sharon. Ouais.
Et pourtant, ça l'est. Important. Alors, ce que je voulais simplement dire, c'est que on est vraiment... Le concept de masculinité ici, puis Michel Doré pourrait faire du pouce là-dessus, c'est ça aussi qui est confronté là-dedans. C'est qu'il y a cette nécessité d'être fort, d'être au-dessus de ces choses-là, mais on a été agressé alors qu'on était des enfants vulnérables, insouciants, comme c'est normal de l'être. Donc, c'est pour ça que l'impact est encore plus dur.
Ouais. Oui, les gars Michel pensent Doré, que c'est pas supposé leur arriver à eux. C'est pour ça le titre que je vais choisir pour le livre, ça arrive aux garçons, parce que pendant longtemps, on pensait que c'était pas possible. Mais il y a un mythe aussi supplémentaire pour les gars. Vous savez, la fameuse phrase qui est fausse, d'ailleurs, qui a été agressé, agressera, là, c'est faux, ça. Il faut le dire, il faut le répéter. La plupart des victimes ne deviendront pas des agresseurs. Mais souvent, il y avait ce mythe-là qui était sous-entendu et qui est faux. Alors, il faut que les victimes arrêtent de se culpabiliser, de penser qu'on va les accuser. Il faut que les victimes pensent que c'est un accident qui est arrivé. Comme n'importe quel autre accident, elles ne sont pas responsables, elles n'ont pas à se sentir coupables. C'est facile à dire plus qu'à faire, mais il faut le répéter, ça va finir par passer.
Est-ce qu'on s'en remet, effectivement, d'une agression sexuelle, Michel Doré?
Ah, c'est long. Les gens, c'est souvent des thérapies. C'est la vie qui répare la vie. Hein. C'est seule la vie répare la vie. Ça prend non seulement des interventions. Le CRIFAR, d'ailleurs, où a travaillé Sébastien très longtemps. Il y a de plus en plus à Montréal, en région, pas seulement à Montréal maintenant. Il y a des centres spécialisés pour les hommes qui ont été victimes dans leur enfance, leur adolescence. Il y a des choses à faire, des suivis de groupe, il y a des suivis individuels. Moi, j'en connais. Il y a deux endroits dans la région de Québec. Et on a des témoignages très, très positifs de ça. Les gars disent que c'est très, très, très salutaire de enfin pouvoir se libérer.
Je vous redonne nos numéros pour, si vous voulez nous raconter votre histoire, 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Évidemment, on cherche ce matin, on donne l'occasion aux victimes, peut-être des pères oblats, de se faire connaître. Bien sûr, dans l'anonymat, vous n'êtes pas obligé de nous donner votre vrai nom, bien sûr. L'idée, c'est de vous permettre de vous inscrire à ce nouveau recours collectif. Pour rejoindre le cabinet de Maître Arsenault, vous pouvez écrire à arsenault.lemieux@qc.aira.com. Il y a un numéro de téléphone également, le 514-527-8903. Je viens de mettre ces informations-là sur mon Facebook Isabelle Maréchal officiel. Donc, si vous connaissez quelqu'un, si vous êtes vous-même une de ces victimes, ça remonte à il y a plusieurs années, mais comme viennent le dire mes invités, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais bien sûr, vous pouvez participer à ce recours. Sébastien, Richard?
Je veux juste rajouter quelque chose suite à ce que Michel Doré a dit, puis là, je vais parler au jeu, parce que je l'ai fait ce cheminement-là, puis je pense que c'est important là, de pas juste parler de façon globale. C'est certain que le premier réflexe qu'on a quand on est agressé sexuellement, enfant, c'est de penser qu'il ne s'est rien passé. OK? Ça, c'est le premier. On est des enfants, on est insouciants, on veut continuer à vivre, mais tôt ou tard, il faut qu'on réalise qu'il s'est passé quelque chose. Et la raison pour laquelle je tiens à dire ça, c'est que je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent « Ah, moi, ça n'a pas eu d'impact sur moi. » Faux. Il faut vraiment être capable d'admettre que ce n'est pas vrai.
Et à partir de ça... On entend souvent ça,
mais c'est faux. Alors donc, il faut tout simplement reconnaître que l'enfant qu'on était a été abusé. Et puisque ça a été le cas, on a besoin de nous réparer intérieurement. Il n'y a rien de mal à ça parce que ceux qui ont fait l'acte répréhensible là-dedans, ce n'est pas nous, comme le disait Michel Doré un petit peu plus tôt, ce sont ces agresseurs. Et moi, je fais même l'hypothèse, si je me fie à mon propre cheminement, que le jour où je me suis vraiment, vraiment départi de ce lien à l'égard de mon agresseur, c'est le jour où je l'ai confronté en cour criminelle parce que lui, tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il avait pour être capable d'obtenir son innocence, c'est de mentir et c'est ce qu'il a fait.
Ouais.
Donc, ça veut dire que... Mais moi, je suis sorti renforcé de ça et je ne regrette vraiment pas d'avoir fait ce geste-là.
On a Benoît qui est avec nous, qui a été agressé par un père. Benoît, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, c'était en 1973 et 1974. C'est pendant deux années de fil que je me suis fait agresser sexuellement. C'est dur.
Et à quel endroit, Benoît?
À la Prairie.
La Prairie, est-ce que c'était la communauté des Pères Aublats ou c'était une autre?
Les Frères de la Menet.
Les Frères?
De la Menet, c'est ça?
Ah, oui, OK.
Et puis, là, aujourd'hui, j'ai 58 ans. Et deux,
En avez-vous déjà parlé à quelqu'un, Benoît?
Non.
Ouais, jamais.
C'est dur.
Et où demeurez-vous? Dans quelle municipalité demeurez-vous, Benoît?
Chambly.
À Chambly, ben, vous savez qu'il y a une ressource qui existe, le réseau pour hommes de la Haute-Yamaska à Granby, ou sinon il y a le CRIFAS, le Centre de ressources et d'intervention pour hommes abusés sexuellement dans l'enfance, qui est à Montréal. Ce sont deux ressources de gens très compétents qui peuvent vous aider, puis je vous encourage vraiment, vraiment à aller chercher cette aide-là.
Même après toutes ces années-là, ça fait au-dessus de 40 ans, et puis on se sent tellement coupable, puis... Ce qui m'a fait, lui, ce frère-là, c'est pas disable à radio. C'est pas disable à radio. Puis nous autres, j'étais innocent. Et puis, j'ai jamais voulu en parler parce que j'avais peur que le monde me dise que j'étais un pédophile ou quelque chose de même. Puis, j'étais marié, j'ai eu des enfants. Puis, je garde ça en dedans de moi. C'est dur.
Ça vous habite toujours, hein, Benoît?
Toujours.
Et vous voyez, vous venez de faire, monsieur, là, un premier pas. Ouais. Vous en parlez. Nous, on vous croit. Je suis certain que ça vous libère en même temps. Alors, lâchez pas. Et puis, il y a des endroits où vous pouvez recevoir de l'aide gratuitement la plupart du temps. N'hésitez pas parce que vous avez déjà fait un pas et vous êtes courageux. Je vous en félicite.
Merci beaucoup, Benoît. Bon courage. On a Fernand qui est avec nous, qui a été abusé par des pères du Sacré-Cœur. Bonjour, Fernand.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, c'est ça. Dans les années 70, je vivais à Granby et j'étais pensionnaire au collège du Mont-Sacré-Cœur à Granby même. Okay? Puis, c'était très fréquent dans la classe. Là, il y a un père qui venait, là, il disait, il pointait un jeune homme, soit moi ou un autre, puis, tu sais, de s'en aller avec. Là, tous les autres riaient parce qu'ils savaient tout ce qui se passait, mais c'était comme... Personne ne disait rien. T'sais, on savait tout, mais personne ne disait rien. On était abusés. On y a eu un recours collectif. Ça fait 5 ans que c'est commencé. On n'a pas eu de dénouement encore. C'est long. On est tous rendus dans la soixantaine, toutes ces victimes-là. On n'a pas encore de dénouement. Je comprends pas comment c'est que le système est si long à réagir à des choses comme ça.
Et vous êtes inscrit, là, Fernand. Là. Vous êtes inscrit au recours.
Oui, je suis inscrit.
Ouais. Ouais. C'est intéressant.
On n'a jamais de dénouement. La plus tard, j'ai tous mes anciens confrères de classe qui sont décédés. On est tous dans la soixantaine et plus. Ça va faire quoi, là? Ils n'auront plus d'argent à donner parce qu'on va tout être mort.
Ouais.
Il faut que ça avance à un moment donné.
Ben, vous avez tellement raison. Je vais poser la question, si vous voulez bien, à Sébastien Richard, parce qu'il est pas mal au courant de tous ces recours collectifs. Merci beaucoup, Fernand. Sébastien, c'est vrai que, bon, ça a été long, là, pour les religieux de Sainte-Croix, ça a été long. Là,
ça
pour les
pères.
Et puis, ça l'est encore. Vous disiez tout à l'heure, c'était encore en cours.
On attend une décision de la Cour suprême. pour autoriser le
ça
deuxième recours collectif.
Ça fait combien d'années, là?
Ah, là, ça fait, on est en, ça fait 8, ça fait, ce deuxième recours-là, on attend depuis 3 ans pour vraiment l'enclencher.
Parce que c'est, ça, c'est l'autre stratégie. C'est que tu gagnes du temps, puis comme dit Fernand, ben, tu attends que le monde meure, puis là, ben, tu n'as plus de problème. Tu comprends? Le monde n'est plus là pour se plaindre.
Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, je veux quand même souligner une chose. Il y a une coïncidence, d'après moi, qui n'en est pas une, mais ces recours collectifs-là contre les Frères du Sacré-Cœur, est né quelques années après que le regroupement des hommes d'Aoul Yamaska se soit mis à faire des services face aux hommes abusés sexuellement dans l'enfance. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va chercher de l'aide, on va aussi chercher de la force pour pouvoir confronter nos agresseurs. Alors, mais effectivement, si les aubes-là ont le goût de régler, il y en a d'autres qui n'ont pas le goût puis qui ont décidé de faire durer les procédures autant que possible, exactement pour les raisons que vous mentionniez, Isabelle. Alors, il faut se tenir debout, on confronte et puis on lâche pas.
Merci beaucoup, Michel Doré, d'avoir été avec nous. Michel Doré, sociologue de la sexualité. Sébastien Richard, merci de faire ce travail-là pour les victimes des religieux au Québec, des jeunes enfants. Vous parliez de probablement, potentiellement, des milliers d'enfants qui auraient été agressés par des pères oblats. Alors, je vous redonne le numéro du cabinet de Maître Arsenault, 514-527-8903. J'ai également inscrit toutes les informations plus en détail sur Isabelle Maréchal, officielle. Vous allez sur ma page Facebook et puis vous avez toutes les infos. Si vous vous êtes retrouvé dans ce qu'on a dit ce matin ou si vous connaissez quelqu'un, encouragez cette personne à faire partie du recours collectif parce que sans vous, ça ira nulle part. Et même si c'est long, il faut prendre son mal en patience puis il faut se dire que ça fait du bien ultimement. Pas juste d'un point de vue d'argent, mais d'un point de vue de principe. Ça, c'est juste une façon de finalement donner peut-être un peu de chance à ces enfants qui continuent de vivre, qui sont devenus des adultes, mais qui continuent de vivre avec cette expérience extrêmement traumatisante. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je cherche les plus gros fumeurs du Québec. À tout de suite, tout le monde.